Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, la démocratie et les menaces qui pèsent sur elle vont être au centre de notre voyage dans 7 jours d'actualité, avec bien sûr les reportages de la rédaction. Nous partirons pour les États-Unis après l'élection de Donald Trump, en France avant les primaires de la droite et du centre, et au Gabon même pour revenir sur une élection présidentielle contestée. Notre invité Raffaele Simone, linguiste, professeur à l'université Roma Tre à Rome. Samedi 19 novembre, ravi de vous retrouver. Dans la seconde partie de l'émission, rendez-vous comme d'habitude avec l'essentiel de l'actualité africaine et vos messages aussi. Je vous rappelle qu'évidemment, vous pouvez télécharger cette émission, la podcaster, bref, l'écouter quand vous le souhaitez sur le site de la radio RFI.fr. Bonjour Raphaël et Simonet.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver à ce micro. La dernière fois qu'on avait fait une émission ensemble, c'était au début du magazine Idées Nouvelles Formules en 2010. C'était pour un livre qui s'intitule toujours Le Monstre Doux. C'était en gros le portrait de Donald Trump.
Eh bien, plus ou moins. Disons que mon livre dessinait un personnage qui s'est matérialisé tout récemment avec lui. Même s'il avait ce personnage, un antécédent dans la figure de Silvio Berlusconi, qui est évidemment le premier représentant de ce type de figure politique, c'est-à-dire un millionnaire qui contrôle les médias dans une mesure très importante, qui a une personnalisation très poussée dans l'organisation de son parti et qui présente comme candidat au Parlement ses amis, ses avocats, ses amantes, ses maîtresses, etc. Je ne sais pas si Trump, qui a lui-même le contrôle complet des deux chambres américaines, fera la même chose, mais il semble que ça sera plus ou moins la même formule.
Alors il faut rappeler, Raffaele, ce que vous appelez le monstre doux, cet extrait de Tocqueville, de la démocratie.
Le monstre doux, c'est une image que j'ai lancée en m'appuyant sur Tocqueville, qui décrit un état idéal de despotisme, dit-il, où le pouvoir est très fort, très dur et même totalitaire, mais en même temps, il assure la tranquillité, la sérénité, le loisir et le temps libre des citoyens, qui n'ont, eux, aucune autre faculté que de dépenser, de s'amuser, de dépenser, parce que à tout le reste de leurs problèmes, c'est le pouvoir qui pense. Donc ça, c'est un modèle très intéressant. Et chez Tocqueville, il était une sorte d'idéalité négative, une sorte d'idéalité fatale, tandis que maintenant, on le voit apparaître réellement. J'avais dessiné ce personnage, comme je disais tout à l'heure, sur la figure de Berlusconi, qui me paraissait très intéressante comme, personnalisation.
Oui.
Exactement. Maintenant, la figure de Trump, me semble-t-il, l'incarne de manière beaucoup plus forte.
Raphaël, j'ai voulu vous inviter dans cette émission qui résume l'actualité de la semaine parce qu'il est beaucoup question de démocratie. Nous allons partir pour les États-Unis dans quelques minutes. Il y a aussi les primaires de la droite et du centre demain dimanche. Il y a des élections en Afrique. Donc, les électeurs votent. Pourtant, vous venez d'écrire un livre qui est très pessimiste.
Mais mon livre est un livre d'espoir. Hein. Mais
vous trouvez
C'est l'intention de l'auteur, tout au moins. Vous n'avez pas trouvé ça?
Il y a quelques pistes.
Disons, l'intention de moi en tant qu'auteur, c'était une intention positive. C'est-à-dire, l'appel incorporé dans mon livre, c'est la démocratie en crise. Oui. Je cherche à en indiquer les raisons et les mécanismes, mais avec l'espoir que ça puisse se réélaborer et se remettre sur de bonnes bases.
Avec au mieux une démocratie de basse intensité, comme vous le dites, par exemple.
C'est ce que nous avons en ce moment.
Ouais.
Formellement, toute l'Europe est démocratique, mais en fait, il y a des fractures, des fissures pratiquement partout. En France, en Italie, en Espagne, en Angleterre et ailleurs. Donc, mon livre, malgré son aspect pessimiste, est un livre plein d'espoir.
Alors parlons, Raffaele, des lendemains de l'élection présidentielle aux États-Unis, donc avec au début de la semaine la première conférence de presse de Barack Obama, le président sortant, depuis l'élection de Donald Trump, le président élu. Washington, correspondance mardi, d'Anne-Marie Capomaccio.
Cette conférence de presse ressemblait au premier concert d'une tournée d'adieu dans laquelle s'engage Barack Obama jusqu'au 20 janvier. Le peuple a parlé, dit le président des États-Unis, qui a fait campagne contre Donald Trump. Il met un point d'honneur à refuser de commenter la nomination du très controversé Steve Bannon comme bras droit de son successeur. Le président sortant est persuadé que l'immersion dans les dossiers va infléchir la politique de celui qui fut un candidat populiste.
Je pense que ce n'est pas un idéologue, c'est un pragmatique. Et ça peut l'aider s'il a les bonnes personnes autour de lui et une idée du but qu'il veut atteindre. Est-ce que je suis préoccupé? Bien entendu. Lui et moi sommes en désaccord sur un tas de dossiers.
Barack Obama est certes préoccupé, mais il se dit rassuré sur Obamacare, puisque Donald Trump a décidé d'en conserver les principales mesures. Sur le dossier iranien ou l'accord de Paris sur le climat, il accorde à Donald Trump le bénéfice du doute avant examen des dossiers. Barack Obama enfin n'hésite pas à demander à son successeur de ne pas expulser les rêveurs, ces étudiants sans papier arrivés enfants aux États-Unis.
Alors ensuite, Barack Obama est allé en Grèce et en Allemagne. Il a fait ses adieux à l'Europe, en quelque sorte. Avec Donald Trump, est-ce qu'il y a, et vous l'analysez en profondeur dans le livre, Raphaël et Simonet, est-ce qu'il s'agit de la fin d'un cycle, en quelque sorte, commencé après la Deuxième Guerre mondiale et qui s'achèverait aujourd'hui?
J'ai lancé cette proposition en analogie avec le cycle économique qui est reconnu par tous les économistes. Mmh. Il n'y a pas de raison pour laquelle il ne devrait pas y avoir aussi un cycle politique. D'ailleurs, la démocratie comme paradigme gagnant a 2 siècles derrière elle. Elle est arrivée à maturité, ça c'est tout à fait évident. Et à un certain moment, il y a eu un élément qui a déclenché un processus de changement. Cet élément est à mon avis, la mondialisation. Avec ses signifiés intrinsèques et avec ses conséquences. Signifier intrinsèque, ça veut dire surtout la découverte par les citoyens que les pouvoirs politiques nationaux ne comptent pratiquement plus rien, parce que le pouvoir est ailleurs, et économique, c'est le capitalisme international, le capitalisme planétaire, comme je l'appelle, oui, qui commande, qui détermine les destins et les sorts des différents pays. Et pour ce qui est des conséquences, la conséquence la plus importante qui frappe durement de plein fouet le modèle démocratique, c'est l'immigration. L'immigration, le phénomène de l'immigration récente qui est, on peut le dire tranquillement, un phénomène hors contrôle.
Oui, parce que qui dit démocratie, vous l'expliquez aussi fort bien dans le livre, dit ouverture, en principe.
Exactement. Mais ce phénomène d'immigration sollicite dans une mesure insupportable les mécanismes d'accueil et même l'attitude, la mentalité d'accueil chez les citoyens qui, à un certain moment, ont-ils perçu qu'ils en ont ras-le-bol et ont commencé à protester. Ce sont des phénomènes qu'on observe en toute l'Europe. En Allemagne, en Angleterre, par exemple, à côté du phénomène du Brexit, il y a eu des agressions racistes. C'est la toute première fois en Angleterre.
Comme aux États-Unis ces derniers jours, après l'élection de Donald Trump, d'ailleurs.
Donc, c'est un élément qui compose, disons, cette transformation de la démocratie. L'immigration nous irrite. Elle met à preuve durissime les mécanismes d'accueil et d'inclusion qui sont ceux de la démocratie.
Parmi d'autres intérêts, votre livre réveille quand même une évidence qu'il faut avoir en tête, et vous l'écrivez très bien, Raphaël Simonet, vous écrivez que la démocratie, et là, il faut que les plus jeunes en aient conscience, la démocratie n'est pas un sommet conquis une bonne fois pour toutes. On avait fini par l'oublier, ça, en Europe en tout cas.
C'est ce qu'on pensait il y a 20 ans ou 30 ans. Il y a eu, tout le monde le sait, un livre fameux, même si énormément discuté, de Francis Fukuyama, intitulé justement « La fin de l'histoire ». Ouais. Et la fin de l'histoire, c'était quoi? C'était le fait que la démocratie s'étant affirmée dans tout le monde, pratiquement l'évolution politique du monde pouvait se considérer terminé.
Avec la fin de la guerre froide.
Voilà, ça c'était une illusion ou une bêtise, comme on l'a remarqué déjà à l'époque de la publication de ce livre. Et en ce moment, on se rend compte que c'était une fausse prévision. Le mécanisme est encore, c'est remis en mouvement, mais on ne sait pas dans quelle direction.
Alors on va parler de la démocratie dans un instant, mais il nous faut d'abord partir dans des pays en guerre.
Sept jours dans le monde.
Raphaël, partons d'abord pour l'Irak, à Mossoul, où les combats continuent pour enchasser les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Reportage mardi de notre envoyé spécial Anastasia Becchio.
10, c'est le nombre de quartiers de Mossoul repris par la division d'or irakienne aux combattants islamistes après 30 jours d'offensive. Sur une ville qui en compte 60, le compte est loin d'y être. Les combats sont délicats, mais le major Chris Parker, porte-parole de la coalition militaire sous commandement américain en Irak.
C'est sans conteste une bataille très délicate à Mossoul. Daesh est là depuis plus de 2 ans et il a eu le temps de préparer sa défense. Il y a des immeubles hauts et des civils, ce qui complique les frappes aériennes, et des voies étroites, ce qui rend plus difficiles les mouvements. Tout cela, bien sûr, complique les choses. Mais les Irakiens ont une approche très volontaire. Ils poursuivent leurs opérations, continuent d'avancer et continueront jusqu'à ce que Mossoul soit libéré.
Dans les quartiers de l'est de Mossoul, récemment libérés, la situation n'est pas totalement stabilisée. Des combats y éclatent régulièrement. Les djihadistes ont creusé des tunnels et peuvent à tout moment surgir par derrière. Au sud de Mossoul, il reste aussi d'importantes poches de résistance. Chris Parker.
Nous attendons à ce qu'il subsiste des poches de résistance qu'il faudra essayer de nettoyer, même une fois que Mossoul aura été libéré. C'est l'un des points d'inquiétude et le gouvernement irakien devra y faire face. Mais nous allons continuer à les soutenir dans ce combat.
Constamment, des drones ou des hélicoptères Apache américains survolent le ciel au-dessus de Mossoul.
Raphaël Simone, après Mossoul, Alep en Syrie, où les combats continuent également. À Beyrouth, Paul Khalifa fait un point hier.
En plus des raids aériens et des pilonnages à l'artillerie, les habitants d'Alep-Est vivent dans des conditions humanitaires insoutenables. Les produits alimentaires, l'eau, l'électricité et le mazout pour faire fonctionner les groupes électrogènes sont soumis à un rationnement sévère. Au marché noir, les prix sont inabordables. Des habitants ont laissé éclater leur colère contre les responsables de la distribution des produits alimentaires en manifestant dans plusieurs quartiers. Le ministère russe de la Défense a fait état de nombreux morts et blessés parmi les civils lorsque des rebelles ont ouvert le feu sur des manifestants. Le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Rami Abdelrahman, a affirmé que Damas et Moscou ont pris comme prétexte le mouvement de protestation des habitants pour lancer leur offensive contre les quartiers est assiégés par le régime. Cette offensive entre ce vendredi dans son 4e jour de raids et de bombardements. Les forces russes utilisent des chasseurs-bombardiers, des bombardiers stratégiques et des missiles de croisière pour détruire les fortifications, les bases arrières et le matériel lourd des rebelles. À ce stade, aucun assaut terrestre n'a été lancé contre Alep-Est. En revanche, au sud et à l'ouest de la ville, l'armée syrienne et ses alliés poursuivent leur offensive et continuent de progresser sur le terrain.
Alors revenons maintenant aux menaces qui pèsent sur la démocratie, Raphaël, en partant cette fois pour la Turquie, où l'homme fort qui contrôle tous les rouages de l'État désormais, le président Erdogan, évoque la possibilité d'un référendum sur l'Europe, encore un référendum. Istanbul lundi, Alexandre Billette.
Après le Brexit, peut-être le Turc exit. Bien sûr, la Turquie n'est pas dans l'UE, mais le président Erdogan a évoqué à 2 reprises ces derniers jours l'hypothèse d'un référendum pour que les Turcs se prononcent. Pour le président turc, c'est une façon de mettre la pression sur Bruxelles, voire de mettre définitivement fin au processus en évoquant la volonté populaire. Le régime de Recep Tayyip Erdogan, qui est de plus en plus en froid avec l'Europe depuis notamment le coup d'État avorté, mais l'abandon de la candidature turque aurait des conséquences et surtout un coût. Le pays reçoit plus d'1 milliard d'euros par an de l'Europe en aide à titre de pays candidat. Le président turc, qui semble décidément séduit par les référendums pour éliminer en quelque sorte les intermédiaires entre le peuple et lui. En 2017, les Turcs pourraient aussi se prononcer pour passer à un régime présidentiel et pour réinstaurer la peine de mort.
Raffaele Simone, si la démocratie fait faillite, c'est le titre de votre livre, publié donc chez Gallimard. La Turquie illustre aussi parfaitement votre thèse sur l'état de la démocratie aujourd'hui.
Oui, même si la Turquie ne fait pas partie de la tradition démocratique au sens propre. Oui. Elle était, semblait-il, au bord de ce processus, mais la dirigeance actuelle a décidé évidemment de transformer, de changer de direction et de choisir l'autre, c'est-à-dire installer la Turquie comme terme de référence tout le Moyen-Orient, Orient plutôt que comme pont entre l'Orient et l'Europe. Ça, c'est peut-être un choix essentiel pour eux-mêmes, parce qu'ils comprennent, ils comprendront ce que doit faire leur pays pour entrer dans l'histoire moderne. Mais de l'autre côté, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que la Turquie représente en tout cas un élément de passage, une passerelle essentielle entre l'Europe et l'Orient, et a en ce moment une arme secrète, pas tellement secrète, qui est la gestion de l'immigration en provenance de l'Asie. Donc il peut, M. Erdogan, enlever le bouchon de son énorme bouteille ou bombe et faire partir une manifestation terrible vis-à-vis de l'Europe. Il sait bien qu'il a cette possibilité et il en profite. Et d'ailleurs, il a fait des discours qui ressemblent à des chantages vis-à-vis de l'Europe, c'est-à-dire si vous ne donnez pas la contribution que vous nous avez promis pour la gestion de l'immigration, je vais libérer ce flux. Ouais. Donc c'est une situation extrêmement délicate.
Raphaël, dans votre livre, dans votre constat sur la démocratie aujourd'hui, votre analyse avec les pistes que vous préconisez, dans ce constat, vous parlez beaucoup de l'opinion publique, de l'information, du rôle de l'information dans les démocraties. Et vous dites que dès les origines de l'expérience démocratique, je vous cite, on avait signalé le danger que représente le niveau médiocre d'information du citoyen. Là, pour reprendre l'exemple de la Turquie, les journalistes sont emprisonnés et les journaux fermés.
Mais ça, c'est un passage essentiel. La démocratie se fonde sur l'information et la diffusion de l'information. Les régimes non démocratiques se fondent, par contre, sur la suppression ou le silence de l'information. Ce sont les deux faces du même phénomène. Mais dans notre cas, l'opinion publique, dès le début de la tradition démocratique, on avait signalé le risque d'une opinion publique non compétente, non informée, non consciente des programmes des différents partis, etc. Mais non, on a une variable essentielle et tout à fait nouvelle qui est la toile.
Oui.
Pas que les médias en tant que tels, les médias traditionnels sont dépassés par rapport à la toile. La toile, ça forme une couche d'information invisible et ingouvernable qui peut déterminer les destins politique d'un pays ou de l'autre.
On vient de le voir aux États-Unis d'ailleurs.
Exactement. Et d'ailleurs, Trump l'a dit clairement.
L'Internet, les réseaux sociaux.
Je me sers largement de toutes ces ressources parce qu'elles me font arriver jusqu'à des personnes que j'atteindrai pas d'autre manière. Donc là, je crois que comme la toile transporte tout type d'informations, même les mensonges, les falsifications, les bêtises, les canulars, les bobards, tout type d'informations sans gouvernement. Et alors, le degré de compétence des citoyens, au lieu d'augmenter, se réduit et se confond. Ça, c'est essentiel.
Alors que vous citez le grand Walter Lippmann, l'Américain auteur de l'opinion publique, un livre publié en 1922, qui disait ceci, vous le citez dans votre ouvrage, Raffaele, « Le monde auquel nous avons affaire politiquement est hors de notre portée, hors de notre vue, hors de notre esprit. Il doit être exploré, raconté et imaginé. »
C'est ça. Et il parlait en 22, hein, les années 22 du siècle passé. Donc les hésitations pour ce qui concerne l'opinion publique étaient déjà là.
Raphaël, nous allons marquer une pause, écouter quelques nouvelles du monde démocratique ou pas, et on se retrouve dans quelques 3 minutes. A tout de suite.
Thank you.
Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour revivre 7 jours d'événements avec bien sûr les reportages de la rédaction.
Une semaine d'actualité.
Et au cœur de cette revue des 7 jours d'événements, nous avons placé la démocratie cette semaine. Nous sommes en compagnie d'un grand intellectuel italien, Raffaele Simone, professeur à l'université Roma Tre de Rome, auteur chez Gallimard de « Si la démocratie fait faillite » dans la collection Le Débat, une collection prestigieuse, Raffaele. Et j'ai sous les yeux, avant que nous continuions notre voyage, une étude que vous avez lue, évidemment, qui a été publiée dans Le Monde du 8 novembre exactement. Son titre, « La grande fatigue démocratique des Français, ce système politique fonctionne de moins en moins bien » pour 77% des personnes interrogées. Le constat est accablant.
Ça répond à une série d'autres nombres qui sont déjà très éloquents en tant que tels. Par exemple, la baisse de la participation électorale en toute l'Europe. Il y a eu des cas en Italie, par exemple, le 40% des électeurs ont voté. Tous les autres, c'est-à-dire les 60%, sont restés chez eux. Ça, c'est immense parce que l'Italie a toujours été un pays caractérisé par une très grande participation. Ouais. L'autre nombre à citer, que je cite effectivement dans mon livre, c'est le nombre des inscrits aux différents partis. Les gens veulent plus faire partie d'un parti. Et de l'autre côté, il y a un phénomène le plus intéressant encore, les partis n'ont plus besoin d'inscrits. Pourquoi ? Parce que les inscrits ne posent que des problèmes, ne présentent que des exigences, et ça annule évidemment la gestion actuelle du pouvoir. Alors, de quoi ont-ils besoin les partis ? De quelqu'un qui les vote, mais pas d'inscrits en tant que tels. Donc ce sont trois nombres. Les inscrits au parti, les participants aux élections et les gens qui doutent de l'efficacité de la démocratie qui sont parfaitement cohérents.
Mais vous avez vu cette étude, Raffaele, les partis politiques représentent un obstacle à l'amélioration de la situation en France pour 78% des Français.
C'est ça. Ça c'est la base de l'antipolitique. C'est-à-dire, on en a ras-le-bol, dit-on, et donc il faut franchir cette situation et inventer quelque chose de nouveau. Je crois tout de même que ça ne veut pas dire que l'intérêt politique des gens est réduit. Pas du tout. Mais qu'il y a une sorte, je l'appellerais, d'énergie politique chez les électeurs, chez le peuple, qui ne trouve pas de réponse dans les partis traditionnellement tendus. Et donc, qui cherche d'autres pistes pour se manifester.
Comme le mouvement 5 étoiles en Italie, dans votre pays.
Exactement. Enfin, oui. C'est le phénomène des mouvements. Les mouvements ne sont pas des partis, ne sont pas des institutions. Ce sont des agrégations de gens, dans le cas spécifique, animés surtout par des mobiles négatifs, ce qui est dangereux, qui peut agréger, fédérer même des gens qui, normalement, ne pourraient pas lier entre elles.
Des mobiles négatifs, Raffaele, ça veut dire que ce sont des mouvements qui se créent contre quelque chose, contre des individus, contre les étrangers.
Pour protester contre quelque chose. Ouais. Voilà. C'est, de toute façon, une forme d'expression d'énergie politique. Mais c'est une forme mal orientée parce que ce n'est que négatif. Ouais. Et alors, ça peut produire des résultats même dramatiques, disons-le. Parce que, par exemple, les mouvements qui se créent en ce moment en Allemagne sont presque tous de signes nazis. Oui. Les autres, par exemple, le mouvement 5 étoiles en Italie, a des oscillations de temps en temps entre la plaine droite et la plaine gauche. Ils n'ont pas suffisamment de conscience politique pour décider ce qu'ils sont. Ils vont d'un côté à l'autre, selon les cas, mais avec le risque de tomber à droite.
On l'a vu en Espagne aussi, d'ailleurs.
Hein? En Espagne, Podemos. De la même manière. Mais Podemos, à un certain moment, a choisi nettement le chemin de gauche et se proclame, en tant que tel, un mouvement de gauche.
Alors, la démocratie, continuons à en parler en France, cette fois, avec, par exemple, Raffaele, mercredi, la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron. Écoutons-le le soir même sur le plateau de France 2.
Vous savez, quand on prend ce type de décision, avec ce qu'elles emportent de gravité pour le pays, compte tenu du moment que nous vivons et sur le plan personnel, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. Et donc, ça n'est en aucun cas une décision provisoire. Oui, c'est une décision irrévocable.
Démocratie, toujours avec demain dimanche les primaires de la droite et du centre que vous suivez avec beaucoup d'intérêt, Raphaël. Il y avait jeudi soir à la télévision française le dernier des trois débats entre les sept candidats, Pierre Firsian.
Quelle indignité.
Le débat avait démarré depuis une vingtaine de minutes lorsque l'ancien chef de l'État laisse éclater sa colère suite à une question sur les accusations de Ziad Takieddine concernant un possible financement libyen de sa campagne de 2007.
Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. C'est une honte.
Longtemps agacé et nerveux, Nicolas Sarkozy reprend du poil de la bête et attaque directement son principal rival, Alain Juppé, sur son projet d'identité heureuse.
Je pense qu'il n'y a pas d'identité heureuse quand il y a 6 millions de chômeurs et le plein emploi en Allemagne.
Réponse de l'intéressé.
Je crois que les Français m'ont parfaitement compris. Ils savent très bien que je mesure bien que la France ne nage pas dans le bonheur. En revanche, je pense que le rôle d'un chef d'État, c'est de fixer un cap, et ce cap, ce doit être la réconciliation des Français, et ça doit être une France qui retrouve le bonheur de vivre ensemble.
Alain Juppé qui cible lui François Fillon sur sa proposition de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, mais le député de Paris ne se démonte pas.
L'analyse d'Alain Juppé, c'est la raison pour laquelle je suis candidat. Pourquoi j'ai parlé de 500 000 emplois publics? Parce que je propose une augmentation du temps de travail de l'ensemble des fonctionnaires.
Selon deux sondages, Alain Juppé et François Fillon ont été jugés les plus convaincants hier soir. François Fillon qui, à l'issue du débat, a engrangé un nouveau soutien de poids, celui de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing.
Alors, puisque nous parlons de la France, Raphaël, il faut quand même signaler qu'il y a un Français dans l'espace depuis jeudi soir, le Français Thomas Pesquet, qui est un des astronautes qui sont partis du Kazakhstan à bord du lanceur Soyouz en direction de la station spatiale européenne. Ils sont partis donc dans l'espace. Dans cette station spatiale, il fallait le signaler, c'est le 10e Français dans l'espace. Alors, on va redescendre sur Terre et continuer à parler de la démocratie. Vous parlez des campagnes politiques, des hommes politiques aujourd'hui dans cette démocratie en faillite, pour reprendre le titre de votre livre. Est-ce qu'on peut parler de Marc Macron?
Je ne suis pas tellement familier de la situation française pour pouvoir me prononcer là-dessus. Mais il me semble que la multiplication des candidats dans le même domaine ne fait que confondre les eaux.
Il y a aussi des candidatures fabriquées par la communication, oui, par le...
Exactement. Mais ça, c'est important de l'autre côté, parce que maintenant, dans l'actualité, les candidatures ne se forment que par les médias. Mais c'est la multiplication qui m'inquiète beaucoup, parce que normalement, les citoyens, quand il y a plus de deux ou trois alternatives, se confondent. Et ils commencent à se comporter de manière casuelle. Donc, dans ce cas, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais il me semble que c'est un élément ajouté qui n'était pas nécessaire du point de vue de l'électeur.
Alors, dans cette analyse de la démocratie que vous faites dans ce livre qui est passionnant, si la démocratie fait faillite, vous parlez du culte, en quelque sorte, du chef, cette question du leadership.
Mais ça, c'est un besoin primordial des êtres humains et des animaux en général.
Avoir un chef. Et vous citez d'ailleurs un passage du très beau livre « Sa Majesté les Mouches » de William Golding, cette île où se sont réfugiés des enfants. Et ces enfants éprouvent le besoin, eux aussi, de se désigner un chef, d'élire un chef.
Mais il ne faut pas nécessairement se référer à un livre. Il est suffisant d'observer ce qui se passe dans les écoles primaires où les enfants constituent tout de suite à l'instant des groupes et désignent de manière absolument informelle un chef ou une chef même. Et donc, c'est pour ça que je dis que la démocratie a quelque chose d'héroïque et d'acrobatique en même temps en elle-même. Parce qu'elle naît de la négation, du refus de cet instant primordial qui est typiquement humain, à se créer un chef.
C'est en cela qu'elle n'est pas naturelle.
Exactement. Et c'est pour ça qu'elle a quelque chose d'héroïque, parce que elle naît du refus de quelque chose de naturel et d'acrobatique, parce qu'elle présume, elle impose l'acceptation des principes qui ne sont pas naturels, tels que, par exemple, le principe d'égalité totale, ou bien le principe de souveraineté populaire. Ce sont des principes dont je discute.
Ah oui, vous analysez cette notion donc, même de volonté populaire.
Exactement.
Est-ce que ça existe? C'est une vieille question.
Alors, quelqu'un avec une personnalité très logique, très froide, dirait facilement, c'est pas vrai. Effectivement, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut accepter ce type de fiction, comme je les appelle, si l'on veut faire marcher le mécanisme démocratique. Ça dénonce, en même temps, son caractère héroïque, et sa fragilité en français. Et c'est sur cette fragilité que s'appuie en ce moment la protestation antipolitique et tous les mouvements qui sont contre la démocratie en tant que telle.
Quand vous parlez des fictions de la démocratie, Raphaël et Simonet, vous pensez à quoi précisément? Vous l'analysez dans le livre, il faut le dire dans cette émission.
J'en fais une liste dans mon livre de 10 ou 12 principes qui sont fondamentaux.
Prenons-en quelques-uns, par exemple.
Mais par exemple, le principe représentation.
Ouais.
C'est-à-dire l'idée que, comme le peuple peut pas siéger en permanence, c'est Rousseau qui dit comme ça, pour décider de ses destins, il lui faut désigner des gens, un nombre mineur, qui le représentent. Alors là, l'idée sous-jacente, c'est que les représentants du peuple pensent exactement de la même manière que les électeurs qui les ont désignés. Ce qui est évidemment seulement vrai, mais en même temps impossible.
Ouais, ouais.
Mais en ce moment, actuellement, la séparation entre les électeurs et les élus est la plus grave qui soit historiquement.
Ouais.
Parce que les électeurs ne savent plus rien de ce que font leurs représentants et vice-versa. C'est ce qu'on appelle la séparation des deux mondes, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle votre président du gouvernement l'autre jour a dit « la politique, c'est une langue morte ». Il parle bien, mais c'est de leur faute, ce phénomène.
Oui.
Et langue morte parce que les électeurs ne comprennent plus ce qu'elle veut dire, et vice-versa, les politiques ne savent plus qu'est-ce qu'ils disent les électeurs eux-mêmes.
Écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous dire depuis quand vous écoutez l'émission qui fête ses 20 ans, je vous le rappelle. Bonjour aujourd'hui à Serge qui nous écoute au Burkina Faso depuis une dizaine d'années, dit-il. À Issouf qui nous écoute lui à Koudougou dans le même pays. Un salut à Baldé Tierno à Conakry qui nous suit depuis 7 ans. La signature de la Russie au traité de Rome créant la CPI est un signal fort pour tous les autres membres de cette institution, la Russie qui va donc quitter la CPI. Un bonjour également à Serge, à Bobo Dioulasso, à Amilcar à Marseille et à Annie à Arras.
Une semaine d'actualité.
Et nous partons pour l'Afrique, Raphaël Simonet. Je sais que vous suivez ce continent avec intérêt, avec toujours la démocratie en perspective. La démocratie dans un pays exsangue, la Centrafrique. Jeudi à Bruxelles, le président Faustin Archange Touadéra a présenté un plan de redressement de 5 ans, mais il n'a pas obtenu tout ce qu'il voulait. Dans la capitale belge, Pierre Pinto, jeudi.
Faustin Archange Touadéra est de ceux qui préfèrent voir le verre à moitié plein. 2,2 milliards de dollars, c'est trop peu pour financer son plan de relèvement sur 5 ans pour lequel il demandait 3 milliards. En revanche, c'est plus que suffisant pour mettre en œuvre les actions prioritaires sur les 3 années qui viennent. Un plan dans le plan, en quelque sorte, pour lequel les autorités centrafricaines demandaient ce jeudi 1,6 milliard de dollars. Le DDR, la réforme des forces de sécurité, la reconstruction de la justice et les projets de réconciliation devraient donc être financés en priorité. Parmi les principaux bailleurs, la Banque mondiale a débloqué plus de 500 millions de dollars et la Commission européenne 450 millions. J'ai bien noté les inquiétudes de certains d'entre vous relatives à nos capacités d'absorption des ressources, a déclaré le président Touadéra, qui a donné des gages à ses partenaires, promettant notamment une mise en œuvre accélérée de ce plan et des réformes structurelles. Faustin Archange Touadéra se dit optimiste puisque selon lui, l'enveloppe annoncée ce jeudi ne prend pas en compte les contributions promises par certaines institutions qui n'ont pas pu annoncer de montants en raison de leurs procédures internes ou encore de celles qui n'ont pu être représentées à Bruxelles.
La démocratie et des élections à la valeur relative cette fois. Cette semaine, RFI a eu accès à un brouillon authentifié, c'est-à-dire très proche du texte définitif et identique sur le fond, texte du rapport des observateurs de l'Union africaine lors de l'élection présidentielle au Gabon, et un doute, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la validité de ce scrutin dans la province du Haut-Ogooué. Sébastien Nemeth.
C'est un document court, 3 pages, il n'en est pas moins embarrassant pour le pouvoir. En effet, les PV du Haut-Ogooué sont présentés comme invraisemblables. Ils sont décrits comme si bien rédigés, ordonnés, avec une coïncidence entre le nombre d'inscrits, celui des suffrages exprimés et leur attribution quasi totale à un seul candidat. Selon le document, les procès-verbaux sont clairement établis, conformément au texte. Leur lisibilité est si nette qu'ils ne peuvent que susciter des interrogations. Fin de citation. Bref, les PV du Haut-Ogooué sont tellement parfaits qu'ils en éveille les soupçons. Par contre, pour les autres provinces, les observateurs écrivent avoir vu des exemplaires mal remplis, non signés, incomplets ou encore surchargés. Des anomalies qu'on retrouve dans la majorité des pays, dit le document. Le Haut-Ogooué est donc présenté comme une exception douteuse. À Libreville aussi, certains PV suscitent des interrogations, vu leur rédaction, leur présentation et l'orientation bien particulière des résultats contenus. Le rapport n'en dit pas plus. En tout cas, les observateurs disent qu'à part les PV visés par des observations pertinentes, ceux que nous avons examinés laissent apparaître une constante avance de jumping sur Ali Bongo. En conclusion, ils demandent de différer la proclamation des résultats vu les risques d'implosion sociale très élevés, disent les observateurs. Une recommandation qui n'avait pas été suivie.
Raphaël Simonet, démocratie en question également en RDC, en République démocratique du Congo, où les médias étrangers, à commencer par RFI, sont menacés. Joseph Kabila, le président congolais, s'est exprimé mardi devant le Parlement, réuni en congrès à Kinshasa, dans un contexte de report de la présidentielle qui était prévue le mois prochain. Correspondance de Sonia Rollet.
Une clameur à son entrée dans la salle devant ce congrès qui lui est très largement acquis. Joseph Kabila demande une minute de silence pour les victimes entre autres de Beni, du Kassai et de Kinshasa. Mais il revient très vite sur le passé, 2001 et son accession au pouvoir dans un pays sans État. Un tableau sombre, souligne-t-il lui-même, dans un pays divisé, rongé par les conflits. Et il égrène ce qu'il considère comme les réalisations dont il faut être fier. Les premières élections démocratiques, la décentralisation ou encore l'abaissement de la dette. On dirait qu'il fait ses adieux, commente un député de la majorité. C'est de la comédie, estime un membre de l'opposition. Quand il évoque l'actualité de l'heure, c'est pour dénoncer le comportement de certains de ses opposants et d'officines étrangères. Aucun agenda politique ne saurait justifier la violence, dit Joseph Kabila, clameur à nouveau. Le président congolais accuse ses opposants de, je cite, « miser sur la mort de Congolais, les destructions méchantes » et il appelle la jeunesse à s'en détourner pour privilégier la voie des urnes à s'enrôler. Les élections prévues pour ce mois de novembre ont été repoussées au titre de l'accord politique à au mieux avril 2018, alors que le chef de l'État est accusé par ses détracteurs de chercher à se maintenir au pouvoir en violation de la Constitution, ce dernier évoque son avenir politique. N'ayant jamais été violé, la Constitution sera respectée dans toutes ses dispositions, assure Joseph Kabila, qui quitte la salle sous un tonnerre d'applaudissements.
À signaler aussi évidemment la coupure du signal de RFI à Kinshasa qui dure depuis des jours et des jours. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de notre ami Raphaël Simonet, auteur de Si la démocratie fait faillite, un livre publié chez Gallimard. Vous avez vu la difficulté qu'il y a à faire vivre la démocratie en Afrique. C'est un continent difficile sur ce plan. La démocratie ne va pas de soi, décidément. Hein.
Je crois qu'il y a un élément fondamental, et c'est que les démocraties, comme elles se basent sur le principe d'égalité, excluent toute forme de familisme. Et donc, dans les cultures où le familisme, le clan, est essentiel comme base sociale, le mécanisme démocratique a du mal à s'imposer.
Il faut noter qu'il
y a... Et donc, il y a là une contradiction évidente et frappante. Les deux choses ne peuvent pas se relier efficacement. Si l'on n'élimine pas le familisme, on ne peut pas créer un régime vraiment démocratique.
Le clanisme, donc il faut noter aussi qu'il y a des élections municipales demain au Mali. Qu'appelez-vous démocratie de basse intensité?
C'est la démocratie dans laquelle les citoyens participent peu. Ils ne sont pas interrogés par les politiques sur leurs opinions, leurs besoins, leurs exigences. Et comme réponse, ils veulent plus avoir de ce que font les politiques à leur place. C'est la situation actuelle. Oui, oui. Donc l'esprit de participation est faible et la réponse de la politique est faible elle aussi ou même nulle. Et c'est là le cas où se forment les mouvements. C'est pour ça que je voudrais souligner l'importance de ce phénomène normalement sous-estimé et traité plutôt comme folklore politique que comme une forme intéressante et vitale, viable de manifestation politique. C'est un phénomène fondamental qui donnera des effets, sinon des résultats.
Alors, vous notez aussi l'importance de l'économie dans l'avenir de la démocratie. Vous écrivez même que tout le monde s'accorde sur le fait que la forme que la démocratie prendra dans un avenir proche, dans l'avenir, sera décidée non pas par les citoyens, mais dans les quartiers généraux du capitalisme mondial.
Ça, c'est un phénomène déjà en cours. C'est évident et presque banal. Et c'est pour ça, ça c'est un des facteurs, une des raisons pour lesquelles les citoyens se retirent. Parce qu'on voit qu'il est pratiquement inutile, dans certains cas, de voter, parce que ce ne seront pas les gens qu'on a élus à gouverner, mais d'autres personnes qu'on ne connaît pas et dont on ignore même le nom et l'adresse postale. Parce qu'il s'agit de forces immatérielles, délocalisées, sans siège, sans forme, sans nom, c'est une perception universelle qui détermine la désaffection de la politique.
Alors, l'avenir de la démocratie peut être dans les mouvements. Est-ce que cet avenir peut aussi se situer dans ce qu'on appelle la démocratie numérique ?
Mais ça, c'est une sorte d'espoir qu'on formule. Je suis très perplexe là-dessus. Parce que la politique se fait en se rencontrant physiquement.
Ah, il faut rappeler, démocratie numérique, ça veut dire voter, s'exprimer par l'intermédiaire des réseaux sociaux, de l'Internet, etc.
Exactement. Etc. Nous avons en Italie un exemple qui a déjà derrière lui 5 ou 6 ans, qui est le mouvement 5 étoiles, qui ne tient pas de congrès, qui n'a pas de statut, et donc où les gens ne se rencontrent pas du tout. Et donc on ne communique que par mail, ou par des programmes qu'ils ont élaborés qui permettent aux gens de se mettre en contact, mais sans se voir physiquement. Et donc, je crois que ça, c'est la négation de la démocratie. La démocratie, c'est contact, contact des yeux, comme le disent les Américains. Il faut se voir, se toucher, parler, partager ses besoins et ses exigences de manière vivante, pas froidement à travers les médias. De toute façon, il y a plein de monde qui y croit, qui espère beaucoup dans la démocratie numérique. Je suis perplexe, mais c'est tout de même un phénomène important qu'il faut observer.
Mais Sarah Raffaele, depuis une heure, nous parlons de la démocratie, quasiment une heure. Est-ce que ce n'est pas une crise qui concerne uniquement les pays riches, l'Europe, les États-Unis, une partie de l'Asie? Les auditeurs africains qui nous écoutent en ce moment même doivent se dire, mais pourquoi sont-ils tant critique, aussi critique avec la démocratie, sachant que beaucoup d'électeurs africains, de citoyens africains, aimeraient être aussi des électeurs?
Ben, j'ai lancé la supposition, qui d'ailleurs n'est pas que la mienne, que la démocratie a un régime adapté aux pays riches, et au moment où ils atteignent leur maturité économique, il n'y a plus besoin de démocratie dans ces pays-là. Et d'ailleurs, on a
la démocratie comme étape, en quelque sorte, dans la vie d'un peuple.
Exactement, qui suit une certaine phase de leur évolution. Et d'ailleurs, on a des exemples intéressants d'approximation à la démocratie qui sont représentés actuellement par la Russie. Je dis plusieurs fois, et je le soutiens, que la Russie représente, en termes possibles, notre évolution démocratique. Parce qu'en Russie, qu'est-ce qu'on a? On a une apparence de démocratie, de libres élections, des partis qui se contrastent, etc. Mais séparation totale des droits politiques par rapport aux droits économiques. Et donc les gens peuvent devenir riches, même richissimes, partir en vacances tout le temps, faire des investissements et dépenser, mais ne peuvent pas s'exprimer librement sur les affaires politiques. Et alors ? Je crois que la sympathie qui s'est déclenchée entre Poutine et Trump, qui se base évidemment sur quelque chose, ça va former un modèle possible de ce que nous deviendrons nous-mêmes en Europe dans le futur prochain.
Alors, une question d'actualité que tout le monde se pose aujourd'hui et que je vous pose, Raffaele, parce que vous êtes un spécialiste des questions de la démocratie. Est-ce que Donald Trump vous inquiète ?
Beaucoup, évidemment, beaucoup. Il reprend tous les aspects de ce qu'en Amérique latine, le siècle passé, on appelait el caciquisme, c'est-à-dire le régime basé sur le cacique,
oui,
en chef absolu, arrogant, généreux le cas si c'est nécessaire, mais avec toute sa famille. D'ailleurs, il n'est pas un hasard que Trump s'est présenté avec toute sa famille et qu'on commence à dire que le mari de sa fille aura peut-être un rôle dans son... C'est-à-dire, le privé et le public commencent à se mêler, à se compénétrer dans une manière qui m'inquiète beaucoup.
Ouais.
Et alors, cet élément, sommé aux autres, dans leur globalité, dessine un cadre plutôt inquiétant.
Merci, Raffaele Simone. Il faut lire votre livre « Si la démocratie fait faillite » avant d'aller voter l'année prochaine pour les élections, pour l'élection présidentielle en France, par exemple. Je le recommande vivement. Il est publié chez Gallimard dans la collection Le Débat. Merci, Raffaele.
Merci à vous.
Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rovinsky. Rendez-vous demain pour le magazine Idée que vous connaissez, puisque nous avions fait une émission ensemble. Donc, Raphaël, nous parlerons cette fois du superbe livre de Stefan Zweig, Le Monde d'hier, avec un romancier homme de théâtre, Laurent Seksik. Dans ce livre, on parle de la fin de la démocratie, des années 30, de la fin du cosmopolitisme. Vous connaissez ce livre, évidemment, j'imagine, Raphaël. Hein, Le Monde d'hier, donc on parlera de ce livre splendide, qui a une actualité évidente aujourd'hui encore. Nous en parlerons demain dimanche à 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.